oscillation atemporelle. Et si le dimanche à 19h était le moment d'une autre évasion sonore décalée, pas pareil sur fréquence 7, le moment d'une pause grandiose, intimiste, virtuose aussi, qui résonne de créations sonores et musicales d'au-delà de notre quotidien, ce que très largement chacun appelle selon son goût dans notre monde occidental, musique classique, musique savante ou grande musique. Les premiers et troisièmes dimanches de chaque mois à 19h, Oscillation Atemporelle vous propose de partir pour une heure à la découverte de ces musiques en suivant le fil d'une époque, d'un compositeur, d'un musicien, d'un instrument, d'un orchestre ou chef d'orchestre ou d'une forme musicale. Cela agrémenté de l'histoire dans l'histoire des œuvres diffusées, de petits potins et de la raison en toute mauvaise foi passionnée de leur choix. Oscillation Atemporelle est animée par Mario Micro et à la conception, avec la complicité pour cette émission de Jean-Daniel Talma et le soutien technique de Sylvain. Pour respecter le calendrier de la radio et pour le plaisir d'entendre l'émission deux fois sur les ondes, diffusion le 18 janvier 2026 et rediffusion le 29 mars. Pour une écoute à votre convenance, rendez-vous sur le site de Fréquence 7 en lecture directe ou téléchargée. Cette oscillation atemporelle est consacrée à la flûte à bec. Magnifique et discret petit instrument ? Peut-être. Jean-Daniel, facteur d'instruments avant, nous en parle. La flûte à bec, 8 trous, de l'an je ne sais quand, à 1789. Vas-y.
Peut-être on peut déjà définir qu'est-ce que c'est une flûte à bec.
Vas-y.
Parce que c'est une famille de flûtes qui est très très large. Le principe sonore d'une flûte, c'est donc le souffle du musicien qui vient se briser sur une arête et qui va mettre en vibration le tube. C'est une oscillation d'un filet d'air autour d'un biseau. Et donc ce principe-là, en fait, il existe depuis toujours, depuis la nuit des temps. Mais le principe de la flûte à bec, il existe, lui, depuis, en tout cas, les plus anciennes traces européennes de flûte à bec, c'est 2005 avant JC, c'est l'époque chalcolithique, juste la fin de la préhistoire. Il y a une flûte en France qui est très connue, qui s'appelle la flûte de Véraud, qui a été retrouvée en Aveyron, si je ne me trompe pas, Véraud. Qui est une flûte en os avec 5 trous et un sifflet. Alors, qu'est-ce qui différencie la flûte à bec des autres types de flûtes ? C'est principalement l'émission du son. C'est-à-dire, dans toutes les autres familles de flûtes, le musicien lui-même va porter le souffle sur le tube, sur le bord du tube. Dans la flûte à bec, c'est un petit dispositif qu'on va appeler conduit, qu'on va appeler canal, qui va donc diriger le souffle du musicien vers l'arête du biseau. Ce système, on va l'appeler le système du sifflet ou du conduit. Et c'est ça qui définit la flûte à bec, en premier lieu. Après, en Europe, la flûte à bec, elle a une histoire qui est très très large, qui commence déjà du Moyen-Âge, en tout cas sous la forme dont on la connaît aujourd'hui, et qui va aller jusqu'à aujourd'hui. Cette flûte à bec, c'est l'archétype de la flûte à bec, dans la tête de beaucoup d'auditeurs, c'est la flûte qu'on a jouée tous à l'école ou au collège, donc un morceau de plastique qui est percé de 8 trous, avec un sifflet, donc une petite bouche, un canal et puis un bec, c'est-à-dire que l'extrémité de la flûte sur laquelle on va souffler, il a été taillé pour qu'on puisse poser l'instrument entre les lèvres très facilement. Donc ce principe de bec, en fait, c'est une terminologie qui est assez propre aux francophones, parce que dans les autres pays européens, on va pas l'appeler flûte à bec. On va lui donner d'autres noms qui sont plus proches de l'organologie, c'est-à-dire de la forme de l'instrument, c'est-à-dire un conduit. Voilà, alors flûte à bec, dans nos têtes, c'est un sifflet, 8 trous sur un tube. Voilà, après, il y a plein d'autres flûtes à bec à travers le monde, à travers les cultures, à travers les époques, mais nous, on va se concentrer sur cette forme de flûte à bec. Thank you.
Et on joue ça à l'école, mais c'est quand même un instrument de musique savant.
Oui, tout à fait. Alors la flûte à bec, effectivement, elle a été très très estampillée par, par des générations de musiciens en herbe. Elle a été estampillée flûte pour enfants. Alors qu'en fait, c'est l'instrument, entre la Renaissance et la fin de l'ère baroque, c'est l'instrument pour lequel on a écrit le plus d'œuvres musicales, c'est-à-dire de répertoire. Il y a autant de répertoire pour la flûte à bec soliste que pour le violon. Ça, on l'ignore complètement, la plupart des auditeurs, je pense qu'ils n'ont pas, ils ont pas cette vision. Donc c'est un instrument vraiment qui nous a accompagnés et qui a été très très largement soliste avant d'être mis de côté pour plein de raisons. La principale est peut-être sa puissance, parce que la flûte à bec, elle est limitée en puissance par rapport à la flûte traversière. Et puis après, voilà, l'histoire aussi. C'est un instrument, après la Révolution française, qui a été quand même pas mal, étiqueté comme instrument de la noblesse. Parce que les compositeurs de l'époque étaient des compositeurs qui étaient sujets du roi la plupart du temps, qui travaillaient pour les aristocrates, qui écrivaient des pièces. Les mécènes étaient surtout des aristocrates, pas que, il y avait aussi des bourgeois. Mais n'empêche que l'instrument, comme beaucoup d'autres, a été, par exemple, je pense à la cornemuse de cour, qui a été aussi mis au banc parce que ça c'était aussi l'instrument de l'ancien régime.
Donc notre flûte à bec tout à fait populaire avait été mis au banc parce que c'était un instrument de noble en fait.
Ouais, c'est ça. Alors ça c'est dans les grandes lignes. Après, dans la réalité forcément, dans les musiques populaires, l'instrument a continué à perdurer forcément. Oui, donc la flûte à bec, après, elle va revenir après l'ère industrielle, dans une époque assez récente, en tout cas en France. On va commencer à s'y réintéresser avec tout le courant de charnière 19e, 20e autour des musiques anciennes. Les premiers courants qui s'intéressent aux musiques anciennes, au patrimoine, avec des grandes figures dans l'architecture comme Viollet-le-Duc qui va refaire les châteaux. Et puis en fait, dans les arts, c'est pareil. Il va y avoir les premières recherches sur les répertoires anciens, médiévaux, Renaissance. Et on va commencer à se réintéresser à cet instrument. Le répertoire n'avait pas disparu, mais était joué par la flûte traversière. Voilà, donc tous les grands concertos de musique classique de l'ère baroque, 16e, 17e, 18e, en fait, n'avaient pas disparu, mais étaient joués par la flûte traversière, avec des ensembles à cordes. la flûte dans la pédagogie, elle va revenir en force grâce à un monsieur qui s'appelle Dolmetsch. Je ne sais plus sa nationalité, je crois que c'est suisse, mais je ne suis pas certain. Qui va introduire la flûte à bec dans l'apprentissage de la musique auprès des enfants. Ben ça va donner des idées après. En France, l'éducation nationale voulait un instrument qui soit peu cher, facile à transporter. Et donc, du coup, la flûte à bec va comme ça intégrer les rangs de l'école pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Parce qu'elle va être enseignée par beaucoup de musiciens qui sont pas du tout convaincus par l'instrument et qui ont pas du tout la culture de l'instrument. Et donc forcément, comment transmettre l'envie de jouer d'un instrument quand on n'est pas convaincu soi-même par sa richesse, c'est difficile. Ça, c'est pour la France. Après, pour les autres pays européens, la flûte à bec, elle n'a pas forcément eu le même statut et elle n'a pas évolué de la même manière. Nos voisins, par exemple, anglais, hollandais énormément, et allemands, suisses, vont... Quand moi, je fais des... De par mon travail, je fais des salons dans d'autres pays européens, des salons consacrés à l'instrument, et on voit bien que l'instrument n'a pas du tout le même statut. Chez nous, un collégien qui joue de la flûte à bec au conservatoire, généralement, il va le garder pour lui, il va pas en parler à ses copains. Là-bas, c'est assez courant, en fait.
Et donc, c'est une flûte qui est dans une famille. Donc, il y a une petite, une moyenne, une grande, et ils ont tous 8 trous, ou alors ?
Ouais. Alors, je vais revenir en arrière, je vais parler un peu de l'histoire. Donc, on a les premières traces à la fin de la préhistoire. Dans l'Antiquité, on a assez peu d'éléments. On retrouve des artefacts, c'est-à-dire des flûtes qu'on a retrouvées dans la terre, souvent en os parce que c'est un matériau qui se conserve un peu mieux que le bois ou d'autres matériaux plus fragiles, ou en céramique. Mais pas sous la forme, ces flûtes-là n'ont pas la forme de la flûte avec 8 trous et un sifflet. Ils ont des formes proches, mais c'est pas encore ça. Les premières traces vraiment des flûtes 8 trous, un sifflet, ça va être 13e, 14e, 15e. On va retrouver à travers toute l'Europe une petite dizaine d'instruments à peu près qui ont ces caractéristiques et qui permettent de faire des doigtés de fourche, c'est-à-dire on va boucher des trous, mais en alternant trou ouvert, trou fermé sur certaines positions de doigts qui vont nous permettre de jouer à peu près 2 octaves avec des demi-tons, voilà, des demi-tons avec ces fameux doigtés de fourche, donc qui facilitent l'émission des demi-tons et qui fixent le demi-ton dans une justesse qui est plus définie que dans une flûte avec moins de trous. Et donc ces premières flûtes à 8 trous, on a retrouvé pas mal en Europe du Nord parce que les conditions ont permis, souvent on retrouve ça dans les latrines de châteaux, dans les douves, en fait dans des milieux anaérobies, c'est-à-dire sans oxygène, donc dans la vase ou dans l'argile.
Ça survit, du coup.
Voilà. Et donc du coup on a quelques modèles, les plus connus c'est Puck par exemple pour les Pays-Bas, Dordrecht aussi, Pays-Bas, on a aussi Nisa en Pologne, enfin il y a plusieurs flûtes comme ça. Et puis après à partir de la Renaissance, là on a carrément des instruments mais qui ont été conservés tels que, qui n'ont jamais été oubliés dans la terre ou dans les douves d'un château, mais qui ont vraiment été transmis, des instruments qui ont été produits par des dynasties de luthiers. Et on en a dans plein de grands pays européens, on a ces flûtes de la Renaissance, et puis après d'autres plus récentes, bien sûr. Et alors, pourquoi je parle de la Renaissance et de ces flûtes? C'est qu'à la Renaissance, c'est l'apogée de la musique instrumentale. C'est-à-dire à cette époque, on va prendre une famille d'instruments et on va la décliner dans plein de tailles différentes pour pouvoir les jouer en polyphonie. Donc de l'écriture à plusieurs voix, de l'écriture de musique instrumentale à plusieurs voix. Ça avait déjà commencé à la fin du Moyen-Âge, mais à la Renaissance, là, ça prend vraiment, ça s'étoffe vraiment. C'est à ce moment-là que la flûte à bec telle qu'on la connaît, classique, elle va acquérir ses tailles les plus grandes. On a dans les traités, dans les iconographies, certaines pièces de musée, des flûtes monumentales, des flûtes à bec qui vont faire plusieurs mètres de haut. Avec des consorts, donc des familles de flûtes. Consort, c'est un mot anglais qui veut dire un ensemble d'instruments d'une même famille. Et comme dans le quatuor à cordes, on va avoir une contrebasse, un violoncelle, un alto, un violon, ben dans la flûte à bec, ça va être pareil. On va avoir une flûte basse, contrebasse, ténor, alto, etc. Et donc à la Renaissance, on va avoir vraiment des instruments qui vont du petit instrument de 10-12 cm jusqu'à des flûtes qui vont atteindre 2,50 m à peu près. Voilà.
Comment on joue ça? Elles sont courbées?
alors non, elles sont pas courbées, mais par contre, c'est les premiers systèmes de clés. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des relais mécaniques qui vont permettre aux musiciens d'aller boucher des trous qui sont à plusieurs centimètres de son doigt.
Et oui.
Ce qu'on trouve couramment sur tous les instruments modernes, classiques, voilà, industriels d'aujourd'hui, mais qui à l'époque est une innovation technique. Et on trouve sur les flûtes à bec, mais aussi sur plein d'instruments. Donc avec ces systèmes de clés, on va pouvoir aller fermer des trous qui sont très loin et avoir des instruments qui sont très très grands. Voilà. La Renaissance se caractérise par la musique instrumentale, en tout cas en ce qui concerne les flûtes. Plus on va avancer dans le temps, et plus la flûte va devenir soliste. Donc après, à la fin de l'ère baroque, on a des concertos avec un continuo à cordes, c'est-à-dire des instruments qui vont assurer le tapis harmonique et rythmique du morceau, avec un soliste qui sera soit un violon, soit un hautbois, soit une flûte. Et là, la flûte à bec, ben, elle va vraiment avoir des pièces très 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 virtuoses. La virtuosité dans la musique renaissance, c'est plutôt sa construction. Dans les pièces baroques, là, c'est vraiment l'instrument soliste qui est virtuose et qui va développer tout un langage. Voilà. Par rapport aux autres types de flûtes de la famille des flûtes, la flûte à bec, elle se distingue aussi par le fait que le musicien, étant donné qu'il n'a pas besoin de porter son souffle lui-même vers le biseau, on va pouvoir souffler dans deux conduits différents. Alors pourquoi je mentionne ça? Parce qu'en fait la flûte à bec, elle est intimement liée à un autre instrument classique qui est l'instrument le plus monumental qu'on puisse connaître dans toutes les familles d'instruments, c'est l'orgue. L'orgue, c'est en fait, ce sont des flûtes à bec, plein de flûtes à bec, des centaines, des milliers parfois de flûtes à bec qui sont alimentées par un souffle mécanique. Elles ont pas de trous forcément, mais le principe sonore élémentaire qui permet à l'orgue de fonctionner, c'est-à-dire un petit canal qui va pousser le souffle vers le biseau, ben ça c'est le fonctionnement de la flûte à bec.
Thank you.
Et donc, dans l'histoire de l'instrument, on va voir aussi des instruments doubles ou triples. Donc ça, c'est surtout au Moyen-Âge qu'on va trouver ça, même si ça va aussi perdurer dans, dans les traditions populaires. Mais au Moyen-Âge, on voit ça très fréquemment dans des contextes de jeu, des flûtes doubles avec une vielle, c'est-à-dire l'ancêtre du violon, et puis un chanteur, par exemple.
Donc un bec et plusieurs tubes.
Ouais, alors en fait, c'est pas plusieurs un seul bec. Enfin, oui, si, un bec, c'est-à-dire une entrée d'air qui après se dispatche l'air dans deux sifflets différents. Ouais, et dans, du coup, dans deux flûtes, exactement.
Et donc une main sur chaque flûte.
Ouais, une main ou pas, parce que ça peut être aussi des flûtes.
Bourdon.
Comme la musique médiévale, au tout début du Moyen-Âge, on est très essentiellement dans une musique modale, donc basée sur un bourdon, construite sur le bourdon. Et donc on voit beaucoup de flûtes doubles qui sont des flûtes à bourdon. Ouais.
Et donc la flûte à bec, c'est note, c'est la plus grave, le do, ça c'est celle de l'école.
Alors, ouais,
est-ce que c'est ça la classique ou...
L'essentiel du répertoire de pièces solistes est surtout écrite pour la flûte alto, qui commence sur un fa. Voilà.
Mais c'est pas un instrument transpositeur.
Non, c'est pas transpositeur. Non, non, on n'est pas sur les flûtes, on joue les notes qui sont écrites sur la partition. Il y a pas de. Et après, par contre, la flûte soprano, donc celle que tout le monde a eu dans les mains, ça, c'est effectivement qui fait une trentaine de centimètres, c'est la flûte qui sonne en do, du coup.
Qui commence par un do.
Exactement.
Et qui
quand
par
on bouge tous les trous, on a un do.
To welcome, to welcome, to welcome. the mutual, mutual fight. This is the mutual, mutual fight. The mutual fight.
Much less, much less,
and
less. Heavenly choir, oh word is heavenly, heavenly choir, oh word is heavenly, heavenly.
All the way he told
Cette oscillation atemporelle est terminée. Vous retrouverez sur le site de Fréquence 7 les titres, compositeurs et interprètes des œuvres que nous avons écoutées. Sur le site, vous trouverez aussi moult informations, dont les indications vous permettant de soutenir votre radio libre, décalée et différente, qui a grandement besoin de vous. Pour adhérer, donner, c'est via Internet ou en venant à la radio, si vous passez à Aubenas. C'est simple et très important. Rendez-vous en février pour la prochaine oscillation atemporelle. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous.